Je vais faire un bond dans le temps. Le roman qui m'intéresse ici, Quatre voyageurs d'Alain Fleischer, publié en 2000, donne un sens particulier à l'expression « se mettre dans la peau de quelqu'un ». Centré sur un thème célèbre de la littérature, celui du double, il fait écho aussi à un thème social très présent au 21e siècle, celui de l'altérité, de la différence, de l'hybridité. On pourrait dire aussi que tout en s'appuyant sur des recherches scientifiques et technologiques qui traduisent certains travaux actuels, et en ce sens réalistes, sur la virtualité ou la recherche biomédicale, il radicalise la formule rimbaldienne « je est un autre ». Ce roman met en scène quatre scientifiques européens provenant de France, d'Irlande, du Portugal et de Hongrie, ayant chacun sa spécialité, qui partent 4 jours en Californie avec un objectif dont on ne peut affirmer qu'il repose sur une précision scientifique très grande. Je cite « Le projet et le contenu de ce voyage d'études nous avaient été commandés par une commission scientifique de la Communauté européenne, prétendument en vue de préparer une conférence internationale sur le sujet « Le monde et ses doubles ». Et sur ce thème imposé, assez vague, nous avions laborieusement cherché des objectifs convenables, élaboré un programme présentable. Au cours des conversations avec mes collègues des 3 autres pays, finirent par apparaître quelques enjeux authentiques à nos yeux, après bien des efforts pour les définir, légitimement un déplacement aussi coûteux. Thème imposé assez vague sur une prétendue préparation de colloque devant lequel les 4 hommes cherchent laborieusement des objectifs convenables, ce qu'ils parviennent à faire après bien des efforts, le projet scientifique n'apparaît pas très rigoureux. On a davantage l'impression d'ailleurs qu'il s'agit d'un colloque sur le fantastique, le thème du double d'Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, ou la science-fiction, le monde et ses doubles, les univers parallèles, qu'un colloque sur les sciences dures. J'aimerais, dans cette présentation, à travers ce roman, examiner la figure du monstre et ce que ce mot peut signifier dans le contexte social actuel. Cette présence du monstre ou de la monstruosité est d'ailleurs signalée dès l'exergue, qui est le suivant, qui entre dans la transfiguration, a derrière lui un évanouissement. Cette phrase tirée de L'homme qui rit de Victor Hugo rappelle la figure mutilée de Gwynplaine. L'examen du monstre se fera en tenant compte de la place occupée par la science dans 4 voyageurs, qui permet aussi d'interroger la portée et le sens du réalisme dans cette narration. Le titre, court et sobre, paraît explicite. Je remarque néanmoins 2 choses. D'abord que l'accent est mis strictement sur leur statut de voyageurs, évacuant le fait que ce sont des hommes de science. C'est pourtant à ce titre qu'ils partent en Californie. Cependant, après la lecture, ce titre donne l'impression d'une litote ironique, car c'est une véritable odyssée qu'auront vécu les 4 hommes. Ensuite, aucun article déterminant démonstratif, voire possessif, ne permet de localiser, si je puis dire, les voyageurs en question. Ils donnent l'impression de ne pas être situés, de ne pouvoir être formellement identifiés. Là encore, cette indétermination conduit directement aux étranges phénomènes qui se produisent en cours de narration. Les 4 voyageurs sont le rose et rondouillard portugais Branquilo da Rosa, le pâle et maigre français Marcel Blanc, on croirait pouvoir y picucher, l'irlandais Gary Green, un homme au sourire éclatant qui ne partageait pas que son prénom avec Gary Cooper, et le narrateur, le hongrois Zoltán Schwartz. Alors, leur patronyme renvoie tous à des couleurs, vous aurez remarqué, rose, blanc, vert et noir. Ils partent donc 4 jours en Californie pour assister à 4 expériences scientifiques, d'abord chez Digital Essences, compagnie spécialisée en imagerie numérique et en réalité virtuelle, où on travaille, à ce moment, à la réalisation d'une Rita Hayworth numérique, synthétique et parfaitement identique à l'original. Le projet Distant Earth, consistant à chercher dans le ciel des planètes présentant les conditions d'apparition ou d'existence de formes de vie semblables à celles qui existent sur Terre, peut-être dans un univers parallèle. Ensuite, ils vont au Matthew Berkeley Genome Center, où ont lieu des travaux sur le clonage et où on célèbre des expériences qui visent, je cite, « à reconstituer l'être humain parfait ». Enfin, la dernière visite a lieu au Ape and Human Communication Farm, où ils communiquent avec un gorille grâce à des échanges musicaux. Ces 4 expériences de dédoublement, par le biais du numérique, le double synthétique, de l'astrophysique, découvrir une vie semblable à celle qui existe sur Terre, du génie biologique, créer un double humain grâce à du matériel biologique, de l'éthologie, échanger avec un grand singe, miroir de l'humain, forment donc le cadre du voyage des 4 scientifiques européens. Et pourtant, le cœur du roman se trouve ailleurs, dans une expérience de dédoublement bien plus déstabilisante. En effet, à la fin de la première nuit de leur séjour, Zoltán Schwartz découvre qu'il se trouve dans le corps de Marcel Blanc et inversement. Le lendemain, ils s'aperçoivent que les esprits de Branquilo da Rosa et Gary Green ont également transmigré. Cette anomalie, agaçante pour le moins, n'est jamais associée à un phénomène fantastique, paranormal. Au contraire, Zoltán Schwartz imagine qu'il s'agit de science, qu'ils seraient tous les 4 cobayes d'une expérience et qu'ils auraient été envoyés ensemble en Californie pour cette raison. Nous sommes moins du côté du fantastique, pour le narrateur du moins, que du complot. L'expérience apparaît d'autant moins hasardeuse qu'elle va se répéter au cours des 3 nuits suivantes, de telle manière qu'au bout de 4 jours, chacun aura occupé le corps des 3 autres. Le dernier soir, ils couchent dans la même chambre dans l'espoir d'accélérer le processus. La boucle sera bouclée et ils termineront leur périple, leur voyage scientifique, en retournant enfin dans leur propre corps. Le roman se termine sur cette attente alors que la nuit commence à se faire à l'extérieur. Les cas de possession, histoire propre à la sorcellerie, à la littérature fantastique, ne sont pas si rares. Elles sont moins fréquentes, à ma connaissance, dans un contexte scientifique. Pour l'anecdote, je rappelle le cas du premier prix Goncourt, que plus personne ne connaît, c'est pour ça que ça me fait plaisir de le rappeler, en 1903, accordé à John Antoine No pour son roman « Force ennemie ». Le narrateur se réveille un jour dans une maison de santé, il est soigné, car il dit être habité par une force extraterrestre qui occupe son corps. L'est-il vraiment, ou est-il plus simplement, si j'ose dire, psychotique? C'est l'ambiguïté de ce roman où un individu ne sait plus trop si son corps lui appartient encore. Mais le narrateur de Quatre voyageurs n'a pas la fragilité de celui du roman de No. Au contraire, c'est de manière très rationnelle que Zoltan Schwartz examine la situation, comme d'ailleurs chacun de ses collègues. Ce qui n'est pas sans parfois provoquer des propos assez burlesques où il est difficile de s'y retrouver. J'en donne un exemple un peu long sur lequel je m'appuierai, mais je pense que ça vaut la peine. C'était ce matin Gary Green qui était dans mes baskets, comme on dit, et j'eus un moment de trouble. Ce regard sombre tourné vers moi qui le croisait avec les yeux de Gary Green, ce regard exprimé par mes yeux, était-il celui de Gary Green, tourné vers la silhouette de Gary Green, ou était-ce plutôt les yeux de Zoltan Schwartz tournés vers moi, Zoltan Schwartz, absent depuis deux jours et de retour, métamorphosé en Gary Green? La chose était indécidable. Les yeux étaient bien les miens, comme lorsque je me regarde dans une glace, mais pourtant avec cette légère étrangeté d'une photographie où on ne se retrouve pas l'inversion familière d'un miroir. J'étais donc bien en train de me regarder, moi, hors de moi, regardant mon corps sans moi, et mon corps cherchant à me reconnaître dans l'enveloppe charnelle où j'étais caché. Mais j'étais aussi dans ce physique de Gary Green, dont les yeux cherchaient à déceler Gary Green en Zoltan Schwartz, et que Gary Green, derrière un masque de ce visage et avec ses yeux qui étaient les miens, observait avec inquiétude, que la vie parfois est compliquée. La permutation des corps, on l'entend bien, est aussi une permutation dans le langage. Le langage, dans cette fiction des corps, ne cesse de renvoyer à lui-même et on ne s'étonnera pas que Quatre voyageurs s'ouvrent sur une fiction, une nouvelle traduite du tchèque, lue par Zoltan Schwartz, qui, sans surprise, apparaît comme la mise en abîme plus ou moins déplacée, anamorphosée, de la fiction que nous sommes en train de lire. Et cette fiction dans la fiction repose très clairement sur le secret, sinon la conspiration, ce que Zoltan Schwartz croit être au fondement de l'expérience qu'ils sont en train de vivre, eux, comme s'ils étaient une sorte de laboratoire humain mouvant qu'on examinait à distance. La nouvelle tchèque insérée dans le texte est lu pour nous par Zoltan Schwartz, où les pseudonymes des quatre personnages principaux sont d'ailleurs des noms de couleurs, est un autre dédoublement, celui de la fiction que nous sommes en train de lire, mais ce texte tchèque répond, lui, aux ironies, parfaitement au canon du réalisme. J'attire votre attention dans le passage que j'ai cité tantôt sur l'importance du regard. 5 fois les mots « regard » et le verbe « regarder », 5 fois l'apparition des yeux. J'insiste à ce propos pour en venir à parler du monstre. Comment définir un monstre? Avançons d'abord qu'il n'existe qu'à travers le regard de l'autre, et c'est le génie sans doute de Mary Shelley dans Frankenstein d'avoir insisté sur la présence du regard porté sur la différence pour mieux la repousser. Une métaphore filée du regard tout le long de Frankenstein. Le concept de monstruosité a évolué au fil des siècles, cependant, comme l'écrit Didier Manuel, le monstrueux restera toujours en dialogue avec la norme, une affaire d'ordre et de désordre, et en ce sens, une affaire de société. Est-il juste d'utiliser le terme de monstre ici? Parlons d'abord de grotesque, terme dont la définition a varié depuis son apparition dans la langue française au XVIe siècle, mais qui se résume généralement à celle proposée naguère par Théophile Gautier dans Les Grotesques et qui fixe une esthétique du difforme à laquelle s'apparentent souvent burlesque et baroque, comme c'est le cas ici. Les corps ne sont pas en soi hideux dans Quatre voyageurs, mais leur aspect étrange, déconcertant, extravagant saute aux yeux et aux yeux des personnages eux-mêmes. Plus encore, cet aspect apparaît à l'usure, en quelque sorte, par un effet de répétition. L'un devenant l'autre qui devient l'autre et encore l'autre, provoquant dans un cadre normalement angoissant, étouffant, du moins potentiellement, un effet plutôt de slapstick, de farce burlesque. Chaque corps claudiquant, se déplaçant de manière improbable, peu assurée, comme image d'épinal du monstre de Frankenstein dans les classiques hollywoodiens, signale à chaque fois un être mal dans sa peau et pour cause. Chacun voit l'impensable survenir, surgir comme monstruosité, soi-même se mouvoir, mais hors de soi, hors de son esprit. Pour reprendre les termes du roman, chacun séparé de lui-même en sa propre présence. Le phénomène étonne d'autant que c'est sous le regard de scientifiques qui se veulent objectifs que se vit cette épreuve éminemment subjective consistant à juger de l'écart par rapport à soi-même. Et l'écart par rapport à la norme est aussi une manière de définir le monstrueux. Je cite encore Manuel, « Le monstre indiquerait un seuil de dépassement quant à ce qui peut être considéré comme différence acceptable ou non acceptable au regard des normes sociales. » Dans le cas décrit dans ce roman, nous sommes radicalement hors norme. Qu'est-ce qu'un sujet qui voit son corps se déplacer sans qu'il ne le contrôle? Mais à l'inverse, que signifie avoir son esprit enfermé dans le corps d'un autre sans pouvoir y échapper? Le paradoxe tient à ce que cette capacité involontaire de passer d'un corps à un autre est aussi un signe d'immobilisme, d'enfermement. On pourrait reprendre ici ce que Clément Rosset écrivait à propos de Beckett. Il évoque l'inanimé, le mort, l'immobile, ou plutôt ses figures inversées et illusoires, l'animation artificielle, le vivant automate, le faux mouvement. Tous les mouvements, en effet, ici, paraissent faux. Car le burlesque de bien des scènes ne doit pas faire oublier l'aspect mortifère de la situation, explicite au moment où, pour la première fois, Zoltan Schwartz découvre, sans toutefois comprendre sur le coup ce qu'il est devenu, qu'il n'est plus lui-même. Je cite, « Qu'étais-je devenu? Toutes ces perceptions et impressions se mêlaient sur un mode nauséeux qui parfois présente la mort comme une issue préférable. La dissolution, l'effacement, le déplacement vers un ailleurs absolu, plutôt que l'insurmontable malaise d'un ici en trompe-l'œil, où le corps sait que tout appui réel lui serait risiblement refusé. » Ainsi, la monstruosité échappe à toute tentative de la comprendre rationnellement et à toute volonté réaliste sur le plan littéraire. On sait bien que l'identité n'est pas un phénomène stable, simple, que notre identité se modifie au contact des autres, mais ici, l'autre est aussi littéralement soi, projeté ailleurs, s'étirant dans l'espace. Dans le contexte du roman, il apparaît presque banal de lire Zoltan Schwartz qui, dit-il, déteste la promiscuité avec un autre homme, ajouté dans le cas précis qu'il concerne, mais en l'occurrence, le compagnon avec qui il s'agissait d'accepter une telle intimité, d'habitude pour moi insupportable, n'était que mon propre corps, discrètement et pudiquement occupé par un autre, qui s'y montrait assez peu et y prenait peu de place. L'altérité, c'est soi-même, physiquement et ontologiquement. J'aimerais articuler cette réflexion à une autre et revenir à la citation au cours de laquelle Schwartz, vivant dans le corps de Gary Green, voit son propre corps approcher. Il affirme se voir comme dans une glace, je recite le passage, mais avec cette légère étrangeté d'une photographie où on ne retrouve pas l'inversion familière d'un miroir. Dans un livre assez formidable de réflexion sur la science, intitulé « Au contraire », et « au contraire », les deux mots sont au pluriel, Jean-Marc Lévy-Leblond propose des passages dialogués qui forment des éclaircies au milieu d'explications parfois arides pour l'amateur plus ou moins éclairé. On retrouve le dialogue suivant dans le chapitre qui, comme tous ceux du livre, est composé de deux termes, en l'occurrence ici, « réel », « fictif ». Alors, je vous cite le passage. « Quand vous vous rasez ou vous maquillez le matin, c'est bien votre vrai visage que vous voyez dans la glace, non ?» Oui, bien sûr. Mais pourtant, vous n'êtes pas réellement derrière le miroir. Non, mais j'y vois bien mon image réelle. Le problème est que le vocabulaire de l'optique emploie justement, dans ce cas, le terme d'image virtuelle. Dans le cadre d'une réflexion fort respectable sur les phénomènes naturels et la réalité, nous voilà, dans ce passage, entraînés subrepticement chez Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir. Certains dédoublements naturels sont peut-être moins réels qu'on le croit. Ou alors, parce que nous y sommes habitués, nous ne voyons plus la dimension fantastique de phénomènes qui nous apparaissent naturels. Le dire apparaît sans doute banal, mais ces phénomènes de virtualité et de dédoublement acquièrent une dimension fantastique dans le roman, alors même qu'ils relèvent de la réalité scientifique contemporaine. Je rappelle que le roman se déroule en Californie. Cet état est souvent le lieu d'atterrissage, si je puis dire, des roadbooks, ce genre qui relève du voyage et qui se superpose souvent à une quête existentielle. Les quatre voyageurs y vivent un voyage singulier et une crise existentielle hors du commun. Mais la Californie, c'est aussi, bien sûr, par excellence, l'univers du faux. Je renvoie au livre encore bien amusant d'Umberto Eco, La guerre du faux, qui exprimait avec moult exemples l'artificialité des lieux, la puissance du simulacre, rappelant par exemple que juste sur le Fisherman's Wharf à San Francisco, il y a quatre musées de cire. Mais la Californie est aussi, depuis longtemps, la Mecque de la technologie, qu'elle touche l'informatique, les images virtuelles ou le vivant. Or, les travaux en biologie moléculaire aujourd'hui, qui touchent le vivant, produisent de nombreuses polémiques également. Ce n'est pas pour rien que certains utilisent l'expression de « nouvel eugénisme ». La frontière est souvent mince entre ce qui est de l'ordre de la guérison et de l'amélioration qui chercherait à créer des êtres humains parfaits. Encore faut-il s'entendre sur ce que veut dire « parfait » et ce n'est pas pour rien que par « nouvel eugénisme », on veut parler justement de monstruosité pour une pseudo-perfection. Alors, je ne veux pas m'engager dans cette direction qui soulève des questions éthiques abyssales, Mais je veux souligner plutôt que l'étrangeté de la situation vécue par les quatre scientifiques se situe dans un contexte scientifique qui lui-même n'est pas banal et où tout va très vite, d'une part. D'autre part, qu'avec les possibilités ouvertes par la biologie moléculaire aujourd'hui, nous sommes de moins en moins dans un réel naturel et de plus en plus dans la construction du réel. Construire des êtres. Jusqu'à quel point peut-on les transformer et dire qu'on les construit ou non? Construire des êtres, est-ce créer des monstres comme Victor Frankenstein lorsqu'il vit sa créature ouvrir les yeux? La figure du monstre se voit tributaire de modifications culturelles. Les chimères d'autrefois ne nous apprennent rien sur le lapin vert d'Edward Cac. Le centaure ne s'explique pas rationnellement, comme la lapine alba de Cac, par l'existence d'une protéine fluorescente verte commandée en laboratoire. Grâce aux nouvelles technologies, nous voilà peut-être, comme l'écrit Annie Ibrahim, bien plus près des monstres voulus et non moins trouvés par les généticiens et embryologistes contemporains. Le roman ne traite pas directement des questions que je viens de soulever et joue plutôt sur le vertige des dédoublements, des simulacres, du faux. Il reste qu'il nous plonge au cœur de la technologie qui se développe au 21e siècle. Le séjour chez Digital Essences ne renvoie pas en soi à la monstruosité. Il n'est sans doute pas monstrueux de vouloir réaliser, je cite, « une Rita Hayworth numérique, c'est-à-dire entièrement artificielle, 100% synthétique, mais parfaitement identique et en tout point conforme à l'original qui fut cher à Orson Welles ». Mais on peut quand même s'inquiéter quand le chef du programme Rita, comme ça qu'il s'appelle, un grand couturier qui a tout, déclare le narrateur, d'un chirurgien esthétique, et j'ajouterais d'une sorte de savant fou soft, affirme, je le cite, que le modèle de Rita en cours de mise au point et bientôt commercialisé par Digital Essences serait supérieur au modèle original né en 1918 et à l'année de référence choisie, 1948, la 30e dans la vie de la star, et que seraient corrigés certains défauts ou imperfections dont on sait, paraît-il, qu'ils avaient été l'obsession quotidienne de la comédienne. S'inquiéter, car cette affirmation anticipe et fait écho à des propos portant plus à conséquence portés à la fin du roman à propos du clonage et d'expériences diverses visant à transformer le matériau humain pour en faire, je recite, « des êtres parfaits ». J'ajouterais aussi s'inquiéter aussi, parce que si on me permet un coming out fantasmatique, croire qu'on pourrait améliorer la Rita Hayworth de 1948, deux ans après Gilda, c'est le signe d'un déséquilibre mental extrêmement grave. Elle n'était pas améliorable. La paranoïa des scientifiques qui se demandent que s'ils sont l'objet d'une expérience dont ils auraient été les cobayes à leur insu, permet paradoxalement de ressaisir cette histoire dans le réel. Devant la masse des réalisations scientifiques potentiellement réalisables présentées dans le roman, le lecteur peut se dire « pourquoi pas ?». Le phénomène de transmigration des esprits qu'ils vivent rend d'autant plus comique les questions auxquelles ils font face lors de la conférence de presse qui fait le bilan de leur parcours, qui devait, je le rappelle, préparer un colloque international sur « le monde et ses doubles », et moi j'entends « le monstre et ses doubles ». Je cite « Nous avons été interrogés sur la composition de notre équipe et sa représentativité a été violemment contestée. Il n'y avait, parmi nous, ni femmes, ni noires, ni asiatiques, quatre caucasiens mâles seulement. L'accusation est peut-être juste et pourtant on ne peut imaginer quatre tueurs plus singuliers ayant vécu plus intensément l'altérité. Au cours des dernières pages du roman, Zoltan termine la nouvelle tchèque entamée au début du périple. Elle se termine par les aboiements d'un chien que le narrateur, tremblant, ne peut situer. Le livre fermé, Zoltan voit dans son esprit, alors qu'il est toujours dans le corps d'un autre, je cite, « Anubis, le dieu chien des tombeaux de l'Égypte ancienne, l'accompagnateur vers l'au-delà, le patron des embaumeurs, responsable de la conservation des corps dans lequel, après la mort, continue à résider l'identité. » Le roman se boucle par un retour au monstre inexplicable d'avant le discours médical sur la tératologie, figure hybride qui télescope les espèces, des corps qui se scindent pour mieux se reformer. Le roman nous propose dans un étrange rêve où se rencontre l'objectivité d'une science plus réalisable qu'on le croit, et potentiellement peut-être monstrueuse, et la subjectivité de personnages emprisonnés dans des corps changeants, rappelant le fantastique littéraire à travers la figure du double. Je vous remercie.